Chapitre 16. Pendant qu'un drame se vivait au village de Lens, Clémence, elle, profitait d'une soirée avec un prétendant nouvellement rencontré à l'hôpital Saint-Joseph. Même si la femme était bien appréciée par les médecins et les autres hommes travaillant dans le gros édifice de briques brunes, elle avait toujours été très professionnelle dans ses relations. Mais deux jours plus tôt, quand Sylvestre Ballant avait mis les pieds dans l'établissement, la main enveloppée dans une serviette imbibée de sang, la femme avait senti un intérêt inhabituel pour le patient. L'homme avait le teint foncé et les cheveux crépus. « J'ai jamais vu cet homme à Rimouski », avait clamé Angèle, l'autre secrétaire, avec un mouvement de tête lorsque l'homme s'était éloigné du comptoir de l'accueil. « Chut !» avait murmuré la jeune Gérard, en faisant de gros yeux à son ami. Puis elle avait observé discrètement l'homme au regard étonnamment clair. Mais Angèle avait poursuivi sans tenir compte de l'avertissement de Clémence. « C'est étrange, ça, un noir avec des yeux pâles. Ça doit être parce qu'il est mélangé. »« Mélangé ?» avait demandé curieusement Clémence. « Ben, tu sais bien, une mère blanche et un père noir, ou l'inverse. » La secrétaire avait fait sa déclaration avec une légère grimace. Les relations interraciales n'étaient pas fréquentes et peu acceptées par la plupart des gens. La femme avait continué ses propos. « Ici, à Rimouski, ça me surprend. Je l'ai jamais vu, je l'aurais remarqué. Il est quand même beau bonhomme dans son genre et c'est pas comme si du monde de même courait nos rues. » Clémence avait hoché la tête avant de baisser les yeux sur son ouvrage. Mais pendant toute la durée de la visite de Sylvestre Ballant dans l'unité des soins d'urgence, elle avait gardé un œil rivé sur la porte menant aux salles de traitement. Quand il avait enfin émergé, avec un bandage enroulé autour de sa main et de son poignet gauche, Clémence avait quitté son poste de travail et annoncé à sa voisine « Je vais fumer une cigarette et prendre un peu d'air. » « Bonne pause !» Clémence s'était empressée de s'emparer de son manteau, mais elle n'avait pas changé ses chaussures. Elle avait voulu sortir avant Sylvestre, afin de le suivre du regard. Son cœur s'était mis à battre à tout rompre dans sa poitrine. « Veux-tu bien me dire ce qui m'arrive ?» avait-elle pensé en s'appuyant contre le mur de l'entrée. Sachant que le patient devait compléter son dossier avant de pouvoir quitter l'urgence, elle avait patiemment attendu que le bel homme élancé quitte l'hôpital, même si elle avait eu les pieds gelés. Enfin, au bout d'une dizaine de minutes, Sylvestre Ballant était sorti par la lourde porte. Debout en haut des marches, l'homme avait tenté d'enrouler son foulard autour de son cou. Maladroit, il avait lancé vers l'arrière et, sans réfléchir, Clémence s'était avancée. « Laissez-moi vous aider, monsieur. » L'homme s'était retourné pour la regarder et avait plongé son regard clair dans celui de Clémence. Pendant un instant, le temps avait semblé se suspendre et la jeune femme s'était penchée pour ramasser le foulard sur le sol enneigé. Elle s'était retenue de le porter à son visage et, gênée à l'idée qu'il puisse lire dans ses pensées, elle l'avait remis sur les épaules de son propriétaire. « Merci, mademoiselle », avait dit le patient. La voix profonde et douce avait bouleversé Clémence, qui s'était aussitôt admonestée. Elle, si terre à terre, si rationnelle, se voyait troublée par le ton d'un inconnu. Pourtant, alors qu'il allait descendre les marches, elle s'était avancée et avait demandé « Vous vous êtes blessée au travail ?»«
Ouais, je travaille à l'imprimerie Vachon et j'ai coincé ma main dans la presse. »
« Ouch !» L'homme avait souri en levant les bras. Il était sur la deuxième marche et malgré tout, avait les yeux presque à la même hauteur que ceux de Clémence. Le duo était resté un long moment à discuter et, à regret, la jeune femme avait dû mettre fin à sa pause. « Je dois retourner à l'intérieur, sinon ma collègue risque de venir me chercher », avait-elle dit en riant. « À bientôt alors, mademoiselle. » Clémence avait attendu que l'homme lui propose de la revoir et, comme il ne le faisait pas, elle avait osé s'avancer sans réfléchir. « Nous pourrions continuer notre conversation une autre fois, si cela vous dit. Accompagnée, évidemment. » Au moment où les paroles franchissaient ses lèvres, Clémence avait senti ses joues s'empourprer. Heureusement, il faisait si froid que son visage était déjà coloré, et elle avait espéré que Sylvestre ne s'était pas aperçu de son malaise. Comme il n'avait pas tout de suite répondu, Clémence avait été mortifiée à l'idée de subir un refus, et elle avait fait un signe vague de la main avant de se détourner. « Excusez-moi !» avait-elle chuchoté en tenant fermement la poignée de la lourde porte de bois. « Non, non, je vous en prie, c'est juste que... Vous êtes certaine que vous voulez être vue en ma compagnie ? »
Clémence savait que certains préjugés existaient dans la société concernant les gens venant d'ailleurs. Mais au moment où elle avait répondu, rien d'autre que son attrait pour cet homme ne l'avait guidée. Absolument. C'est ainsi qu'ils se retrouvèrent à marcher côte à côte sur les trottoirs de bois aménagés le long du fleuve Saint-Laurent, au moment même où les sœurs de Clémence prenaient soin de Palmyre. Quelques pas derrière le couple, la collègue Angèle suivait, en espérant que la promenade ne s'éterniserait pas. Elle avait tenté de dissuader Clémence de se lancer dans une telle relation, mais devant l'entêtement de cette dernière, elle avait haussé les épaules. « Tu feras bien ce que tu voudras, ça me regarde pas. » Même s'il n'avait pas neigé depuis le samedi précédent, il y avait quand même une bonne couche au sol et leurs pas crissaient. Avec gentillesse, Clémence s'enquit de la blessure de son compagnon. « Ça va beaucoup mieux, » répondit Sylvestre. « Disons qu'avec les médicaments que le docteur m'a prescrits, je ne ressens plus rien. » Il éclata de rire et malgré la noirceur, Clémence devina la gaieté que son visage dégageait. Elle sentit de nouveau une étrange émotion au fond de sa poitrine. Sylvestre était un homme cultivé, même s'il n'avait pas fréquenté l'école très longtemps. L'avantage de travailler pour une imprimerie, lui expliqua-t-il, c'est que je peux lire le progrès du golfe avant tout le monde. D'ailleurs, n'est-ce pas terrible la disparition de la goélette Marie-Lydia près du pont de Québec la semaine dernière? Je sais pas ce qui est arrivé. Mal à l'aise face à son ignorance, Clémence tourna la tête vers son partenaire de marche pour en apprendre plus. Elle lisait rarement le journal, sauf lorsqu'un employé de l'hôpital en laissait un dans la cafétéria, et même encore. Ce bateau a été ballotté par la mer en colère et trois membres de l'équipage ont péri. Oh! Ils sont tous morts? Non. Quatre d'entre eux ont réussi à atteindre le rivage. Ce qui est épouvantable, c'est que le capitaine et son fils sont parmi les disparus. Clémence et Sylvestre poursuivirent leur balade pendant près d'une heure au désespoir d'Angèle, qui frottait ses mains l'une contre l'autre. Plus ils passaient de temps ensemble, plus la jeune Gérard sentait son attrait pour le bel homme augmenter. Elle n'avait jamais eu d'amoureux véritable lorsqu'elle habitait à Lens-à-la-Joie. Bien sûr, elle avait connu de petites relations ici et là, mais aucun de ses prétendants ne l'avait attiré comme Sylvestre Ballant. Clémence avait toujours trouvé que les pêcheurs travaillaient trop et ne vivaient que pour la vie en mer. Quand ses sœurs se moquaient de ses jugements, elle faisait la moue sans répondre. À la fin de sa longue promenade, le couple escorta Angèle devant la pension où elle était hébergée. « Tu vas directement chez toi, n'est-ce pas? » chuchota-t-elle à Clémence lorsque celle-ci lui fit une accolade pour la remercier. « Je voudrais vous accompagner encore, mais je suis congelée. Promets-moi d'être sage. Promis. » répondit l'autre jeune femme en souriant gentiment. « Merci de ta présence. » Quand le couple arriva enfin devant la maison du docteur Marien, une dizaine de minutes plus tard, Clémence dut se retenir d'inviter son compagnon à entrer chez elle. Son propriétaire avait été bien clair lorsqu'il lui avait loué le petit appartement au sous-sol de sa grande demeure. Aucune visite masculine ne serait tolérée. De plus, elle voulait respecter sa parole auprès d'Angèle. Clémence posa donc sa main gantée sur l'avant-bras de Sylvestre. Elle lui sourit dans la pénombre de la rue. « Bon, alors je vous remercie pour cette belle soirée. C'était vraiment agréable, » murmura la jeune femme. « En effet. » Leurs yeux s'accrochèrent, et avant même de le réaliser, Clémence se haussa sur la pointe de ses pieds pour embrasser rapidement la joue rugueuse de son compagnon. Surpris par son audace, ce dernier lui sourit avant de proposer « Si vous le désirez, on pourrait recommencer une autre fois. Demain? » lança avidement Clémence. Demain, accepta Sylvestre en penchant la tête pour la saluer gentiment, sans trop s'approcher d'elle. L'homme n'oserait jamais embrasser une femme en pleine rue, encore moins une blanche. Même si Clémence venait de poser ses lèvres sur sa joue, il ne referait donc pas ce geste, malgré son envie. Alors, à demain, Clémence, chuchota-t-il avant de s'éloigner. « À demain, Sylvestre. » Les émotions que cet homme suscitait chez elle accompagnèrent Clémence pour le reste de la soirée. Le regard perdu en scrutant le plafond de sa chambre, elle passa les mains sur son corps avec gêne, déclenchant du même coup des sensations qu'elle associait à l'idée de se lever contre le corps élancé du bel homme noir. Elle ressentait les frétillements d'un amour naissant. La main entre ses cuisses, la châtaigne gémit un peu en fermant les yeux. Elle espérait de tout son cœur que Sylvestre Ballant éprouvait les mêmes sentiments à son égard. Elle comprenait toutefois que cette relation ne serait peut-être pas simple. Simone arriva à la Maison Bleue 5 minutes après sa jumelle. Elle entra par le côté et lorsque Madeleine ouvrit la porte du tambour pour l'accueillir, sa sœur resta sur le seuil en précisant, sans la regarder directement, « Je veux pas voir ton fils. C'est ma condition pour rentrer chez toi. » Malgré le coup au cœur que les paroles de sa sœur causèrent, Madeleine hocha la tête en l'invitant à pénétrer rapidement dans le salon. Elle avait prévu la chose et demandé à son mari d'aller porter Arthur dans la chambre du haut. En voyant sa grand-mère sur le sol, le visage marqué par la douleur et les larmes coulant sur ses joues parcheminées, Simone se délesta de ses bottes et courut jusqu'à elle, sans prendre le temps d'enlever son manteau. « Grand-mère, c'est Simone !» La vieille femme ouvrit les yeux et fixa sa petite fille d'un regard souffrant. Puis elle leva sa main tremblante et la mit en coupe sous son menton. « Ma chérie, où avez-vous mal, grand-mère ?
Mon genou, ma hanche, si je bouge, aouille !»
La bouche crispée par la douleur, Palmyre serra le bras de Simone, qui échangea un regard inquiet avec Madeleine. « Allez chercher des bouts de bois, de la corde et surtout j'aurai besoin d'une planche. On va installer grand-mère dessus. » Freddy n'avait pas prononcé un mot depuis que sa belle-sœur était arrivée chez lui. Il ruminait sa rancœur puisqu'elle ne l'avait pas regardé ni salué. Mais comme il ne voulait pas envenimer la situation pour Palmyre, il rongea son frein et s'empressa de sortir pour chercher ce que Simone avait demandé dans la cabane derrière la maison. Il marmonna à peine une fois parvenu dehors. « Ça vient faire son patron chez nous, puis elle me dit même pas bonjour, » grommela-t-il en frissonnant. « J'espère qu'elle va repartir vite. J'ai déjà assez d'endurer les ordres de Tom toute la saison. » Quand il revint avec les objets demandés, Simone s'empressa de constituer une espèce d'attelle pour empêcher la jambe de la blessée de bouger. Ensuite, avec l'aide de Freddy et de Madeleine, elle glissa la vieille porte de bois rapportée par l'homme sous le corps tendu de la grand-mère.
« Oh, ça fait mal !»
pleura Palmyre, alors que le cœur des trois autres se serrait devant la détresse qui plombait son doux visage. Ses cheveux fins étaient détachés et flottaient sur le côté de ses joues tavelées. Palmyre avait la bouche sèche et demanda à boire. Avec regret, Simone posa sa main sur celle de sa grand-mère et refusa.
« Il vaut mieux pas boire, grand-mère, s'il faut vous opérer. »«
Non !»
cria la vieille en se relevant à demi. « Ouch !» La pauvre Palmyre échappa une longue plainte et retomba sur le sol, à bout de souffle. Quand elle fut bien installée sur la porte, le trio prit la civière de fortune pour la déposer sur le sofa. Simone allait expliquer qu'il était préférable d'attendre l'arrivée du docteur lorsqu'un gémissement venant de l'étage se fit entendre. Immédiatement, la tension s'installa au rez-de-chaussée. Figée sur place, Simone enfonça ses poings fermés au fond des poches de sa jupe de laine, alors que Madeleine hésitait sur la conduite à suivre. Elle espérait qu'Arthur se tairait sans aide. Malheureusement, le bébé avait faim et ses cris se mirent à résonner dans la maison. Les jumelles, face à face, échangèrent un regard furtif avant que Simone ne s'empresse de se rendre près de la porte. «
Pour l'instant, il faut attendre le docteur. J'ai fait ce que je pouvais. Je vous laisse entre de bonnes mains, grand-mère. Je vous aime. »
Le cœur en lambeaux à l'idée de quitter Palmyre aussi rapidement, Simone n'arrivait toutefois pas à passer par-dessus la crainte de voir le fils de sa sœur. Freddy était monté à l'étage sous l'insistance de sa femme et ne semblait pas arriver à calmer les pleurs de l'enfant. Une fois la porte refermée derrière elle, Simone laissa enfin échapper les larmes qu'elle retenait depuis son arrivée chez sa jumelle. En plus de ne pas pouvoir connaître son neveu, elle était privée de cette grand-mère qu'elle aimait tant. Quel gâchis! Le visage crispé par l'inquiétude, elle murmura en levant la tête vers le ciel.
« Prenez soin d'elle, je vous en conjure, Seigneur. »
Une heure plus tard, quand le docteur Lemire arrêta sa voiture devant la maison des Poiriers, les voisins se hâtèrent à la fenêtre pour commenter la chose.
« Oh, bonne Sainte-Anne! Il y a le docteur chez Madeleine et Freddy! »
s'exclama Lucienne en ouvrant la porte de sa maison.
« Ferme la porte, on gèle! Où tu t'en vas, voyons donc? »
s'informa son mari assis à la table devant un gros morceau de tarte au sucre.
« Chez eux, s'il fallait que le petit Arthur soit malade, oh mon Dieu! Ce serait toujours pas la fin du monde. Un bébé, ça tombe malade, tout le monde sait ça. On en a bien perdu deux, nous autres. Justement! »
grogna Lucienne. Bourbeau haussa ses épaules quand sa femme referma la porte derrière elle sans plus attendre. Le docteur Lemire venait à peine d'entrer chez Madeleine que la voisine cogna puis pénétra dans la maison. Lucienne se dirigea vers le salon. Rapidement, la grosse femme constata la situation malheureuse qui se déroulait dans la pièce réchauffée par le poêle à bois, dans le coin de la cuisine. « Dites-moi pas que Palmyre est malade. »« Bonsoir, Lucienne, » grogna Freddy. Il leva les yeux au plafond en s'apercevant que la femme se pressait vers la grand-mère sans répondre à son salut. « Saint crème, » pensa-t-il. « Si ça continue, le village au complet va rentrer chez nous sans me saluer. » Choqué, l'homme murmura à Émile, qui venait juste de déposer son assiette de ragoût de porc à peine entamée sur le comptoir. « Il n'y a pas de gêne, on se croirait au magasin général. » Émile ne répondit pas, inquiet pour la santé de la grand-mère qu'il avait appris à apprécier tout au long de l'été. Son départ était prévu dans 3 jours. Il retournerait alors chez ses parents à Gaspé, malgré son peu d'enthousiasme. Mais la saison de pêche étant terminée depuis quelques semaines, il n'avait plus de raison de demeurer à Lons-à-la-Joie. Il avait espéré un temps que le jeune couple lui offre de demeurer au village pour aider aux tâches hivernales. Toutefois, Émile s'était vite rendu compte que, pour la famille Poirier, les mois à venir seraient très tranquilles. Depuis la fin de la pêche, Freddy sortait couper du bois le matin, il réparait quelques agrès de pêche en après-midi et le reste du temps, il s'occupait dans sa cabane à fabriquer des meubles. Son aide n'était vraiment pas requise pendant l'hiver, avait constaté Émile avec dépit. Assis à la table, les deux hommes suivaient avec inquiétude la situation dans la pièce adjacente. Madeleine serrait Arthur contre elle en ruminant sa colère contre sa sœur qui s'était enfuie comme une voleuse. Mais pour le moment, elle ne quittait pas Palmyre et le médecin du regard. Lucienne s'avança près des pieds de la blessée et d'un coup d'œil, elle remarqua l'édème au niveau de la jambe gauche. Le médecin avait retiré la couverture et soulevé la robe de la femme. « Tournez-vous, s'il vous plaît », exigea l'homme barbu aux autres personnes de la maison. En rougissant, Freddy et Émile obtempérèrent, tout comme Lucienne et Madeleine. Avec précision, le praticien entreprit de couper la culotte de la vieille, qui souffrait tellement qu'elle n'en avait cure. Pour préserver la dignité de l'aïeule, l'homme constata rapidement l'enflure au niveau de la hanche, avant de reposer tout de suite le bas de la robe sur le pubis de Palmyre. « Hum! Quoi? Docteur, qu'est-ce que vous en pensez? » s'informa nerveusement Madeleine. « On peut la transporter dans son lit et après quelques jours de repos, cette contusion s'atténuera, vous croyez? » La jeune mère tendit son fils à Lucienne, qui s'était assis sur le gros fauteuil de velours brun près de la porte de côté, et s'approcha de Palmyre. Après le départ de Simone, qui avait agi comme une étrangère, elle ne pouvait imaginer perdre un autre membre de sa famille. Depuis le décès d'Éloi, sa grand-mère l'avait consolée, conseillée et surtout lui avait pardonné. Le médecin grisonnant ferma sa mallette noire et se releva pour faire signe à Madeleine de s'éloigner avec lui dans la cuisine. « Il faut la transporter à l'hôpital de Gaspé. J'ai bien peur que votre grand-mère n'ait une fracture du genou et quant à la hanche, je n'en suis pas certain. Une chose est sûre, cela ne guérira pas tout seul. »